Radio Classique et votre journée devient plus belle.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le mardi 26 janvier, il est 7h.
6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Et à la une ce matin, c'est Emmanuel Macron. Il gagne du temps avant le reconfinement et il se donne quelques jours pour trancher alors que les médecins, eux, le pressent d'agir. Vous l'entendrez. Sur les réseaux sociaux, les Français, eux, sont de plus en plus nombreux à refuser un troisième confinement. On leur donne la parole dans un instant. Et puis, 4 mois après le passage de la tempête Alex sur le sud-est, retour dans la vallée de la Roya, certains villages sont de nouveau coupés du monde.
Radio Classique.
Il est urgent d'attendre, c'est en substance ce qu'estime ce matin Emmanuel Macron, Lucille.
Le président qui se donne du temps pour reconfiner, il ne prendra pas la parole dans les jours à venir, a fait savoir l'Élysée. Il attend de connaître les effets du couvre-feu pour trancher. Après avoir dit qu'il y avait urgence, le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy estime lui finalement dans Libération qu'on n'est pas à une semaine près. Un nouveau conseil de défense aura quand même lieu demain à l'Élysée. Objectif, trouver justement le juste équilibre. Alors que les médecins plaident pour un confinement strict, Camille Schmitt.
Certes, les chiffres de l'épidémie ne sont pas alarmants pour le moment, mais les variants plus contagieux pourraient aggraver soudainement la situation, explique l'épidémiologiste Dominique Costagliola, directrice de recherche à l'INSERM.
Plus on laisse le virus circuler, plus il y a des chances que puissent émerger des nouveaux variants susceptibles de ne pas répondre à l'immunité naturelle qui a déjà été acquise par un certain nombre de personnes.
Un confinement est donc inéluctable et il doit être bien plus strict que celui mis en place en novembre dernier, avec notamment une fermeture des écoles, selon Djilali Annane, chef du service réanimation de l'hôpital Poincaré à Garches.
Il faut saisir le fait qu'on arrive sur les vacances d'hiver pour les allonger d'une semaine. Ce qui veut dire que pendant 3 semaines de confinement, les écoles seront fermées sans impacter l'activité scolaire.
Le gouvernement temporise. Il souhaite attendre la publication des effets du couvre-feu sur les contaminations avant de prendre une décision. Mais pour le professeur, ce reconfinement devient urgent.
Attendre, c'est retarder le moment où l'on reprendra le contrôle sur l'épidémie et risquer aussi que le confinement, qui s'avère obligatoire, deviennent beaucoup plus longs que si on était dans l'anticipation et qu'on le démarrait beaucoup plus rapidement.
Le président du conseil scientifique a d'ores et déjà appelé les personnes les plus fragiles à s'auto-isoler sur la base du volontariat pour les 2 mois qui viennent.
Jean-François Delfraissy qui suggère aussi de fermer les écoles pour 3 semaines à partir du 7 février pendant les vacances. Les enseignants, eux, sont en grève. Aujourd'hui, elle s'annonce très suivie. À Paris, le cortège partira du Luxembourg à 13h, direction le ministère de l'Éducation nationale. Pendant ce temps, les lits de réanimation continue de se remplir. Plus de 3000 sont désormais occupés. C'est l'un des indicateurs que scrute également le gouvernement pour éclairer ses choix. Une deuxième enquête dite flash est aussi lancée aujourd'hui pour cartographier précisément la présence des variants dans notre pays. Les premiers résultats sont attendus en fin de semaine. Alors au milieu de tout ça, qu'en pensent les Français? Eh bien sur les réseaux sociaux, certains refusent déjà de se reconfiner. Rick Hutch.
10 mois de restrictions, 2 confinements et peut-être un troisième qui arrive. Bruno n'en peut plus et le fait savoir en arborant le hashtag « Je ne me confinerai pas » sur les réseaux sociaux.
Un ras-le-bol psychologique. Nous n'avons plus de loisirs, plus de possibilités de sortie. Il ne nous reste que le travail. La peur que j'ai, c'est qu'on vive des stop and go indéfiniment.
Il est en bonne santé et ne constate aucun cas de Covid parmi ses proches et des vaccins existent désormais. Alors, il ne veut plus se soumettre à un gouvernement qui l'infantilise. Pour Bruno, il faut redonner le choix aux gens.
Les gens qui ont peur du virus, les personnes âgées, ils s'auto-confinent et les autres qui veulent continuer à vivre, continuent à vivre. J'ai 55 ans, je pense être capable de savoir ce qui est le mieux pour moi.
Même s'ils sont des milliers prêts à transgresser un troisième confinement, dans l'ensemble, les Français ont plutôt bien respecté les règles, comme lors des fêtes de fin d'année. Et l'avancée de la vaccination donne une perspective de sortie de crise, ce qui fait dire à Jean Viard, sociologue à Sciences Po, qu'un mouvement anti-confinement est aujourd'hui peu probable.
Ce qui compte, c'est est-ce qu'on suit les règles? La réponse, elle est oui. Il y a une solidarité entre les générations que je trouve impressionnante. Pour l'instant, la société accepte les mesures. Pour l'instant, la société tient.
Qu'importe les internautes les plus remontés l'affirment, ils se joindront au mouvement des protestations lancées par les restaurateurs prévues le 1er février.
Et un peu partout dans le monde, les manifestations se multiplient contre les restrictions. Aux Pays-Bas, plusieurs villes, Amsterdam, Rotterdam, La Haye, ont été le théâtre d'émeutes contre le couvre-feu pour la 2e nuit consécutive. Manifestations également contre le confinement au Liban et en Israël. Aux États-Unis, pas de manifestation, mais tous les regards se tournent en ce moment vers la Californie. À Los Angeles, une personne meurt du Covid tous les 15 minutes. Les morts morgues débordent littéralement. Et pourtant, le gouverneur de l'État le plus touché du pays a décidé cette nuit de lever le confinement aux grandes dames des soignants qui se battent pied à pied dans les hôpitaux. C'est le cas de Scott Byingstone. Il est infirmier en soins intensifs à l'hôpital San Francis de Linwood, près de Los Angeles.
Ça fait 30 ans que je fais ce métier et je n'ai jamais vu autant de morts qu'avec cette maladie. C'est très effrayant. Les services sont débordés et on s'attend déjà à ce qu'une nouvelle vague nous frappe. C'est dur, vraiment dur de voir des médecins devoir faire des choix entre des patients. C'est quelque chose que personne ne veut avoir à faire. Mais on doit regarder la réalité en face. Nous avons trop de malades. Aux urgences, des patients décèdent car ils ont attendu trop longtemps pour être pris en charge. C'est malheureux. On n'était pas préparé à ça. Alors heureusement, aujourd'hui, on a le vaccin. Et si on vaccine plus vite que ce que l'on fait actuellement, il y a peut-être une chance qu'on puisse reprendre le contrôle sur l'épidémie. Mais ça prendra du temps, au moins 9 mois à mon avis.
Le vaccin synonyme d'espoir pour Joe Biden, il table sur une immunité collective cet été grâce à lui pour les Américains. Encore faut-il qu'il reste efficace contre les variants. Moderna estime que son produit l'est, notamment contre le britannique. Un premier cas du variant brésilien vient par ailleurs d'être repéré dans le Minnesota. Les États-Unis où les démocrates ont déposé formellement cette nuit l'acte d'accusation contre Donald Trump dans un Capitole encore meurtri par les violences. L'ouverture de son procès pour destitution, ce sera le 9 février.
Dans le reste de l'actualité en France, les pistes de Gérald Darmanin pour moderniser la police.
Au lendemain du lancement du Beauvau de la sécurité, le ministre de l'Intérieur prend la parole dans les colonnes du Parisien. Il souhaite créer, entre autres, une réserve de la police nationale. François Bayrou, lui, s'exprime dans le Figaro pour rappeler à Emmanuel Macron sa promesse d'introduire une dose de proportionnelle lors des prochaines législatives. Le président du Modem demande au chef de l'État de consulter les Français par référendum.
Enfin, direction, pour finir ce journal, la vallée de la Roya.
4 mois après le passage de la tempête Alex, les habitants de Tende, dans les Alpes-Maritimes, sont de nouveau coupés du monde. Le week-end dernier, des intempéries ont détruit les accès provisoires construits à la hâte pour désenclaver la vallée. Pour Jean-Pierre Vassallo, le maire du village, la situation n'est plus tenable. Rémi Vallès a pu le joindre hier, tendait l'oreille. Même le téléphone a du mal à passer.
Ça montre la fragilité dans laquelle on se trouve. Dès qu'il y a un petit phénomène pluvieux, tous ces passages à gué sont fragilisés. Ce phénomène va se reproduire à plusieurs reprises, c'est ça le problème. Il va falloir qu'on passe à la vitesse supérieure, qu'on envisage de suite la construction de ponts. Maintenant, chaque fois qu'il pleut, ils sont angoissés. On nous a fait une grosse bouée. La bouée nous a permis de tenir la tête hors de l'eau. La bouée a plein de rustines. Et bien, ces rustines sont en train de craquer. On voit qu'elles sont très, très, très fragiles. Bon, bien sûr, on a l'eau, on a l'électricité. Mais pour nous projeter sur un quelconque avenir, et bien, c'est l'impossibilité. Et c'est le moral des gens qui t'attendent.
Et puis alors que les musées attendent de pied ferme de rouvrir, le centre Pompidou lui s'apprête à fermer ses portes, Dimitri, pour 3 ans à partir de 2023. Une fermeture pour travaux. Le bâtiment a très mal vieilli. Il a été construit dans les années 70.
Merci Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant sur Radio Classique, les titres de l'économie, l'édito de François Vidal. On va revenir sur les mots de Xi Jinping devant le forum de Davos hier. Et puis notre invité, juste après, le PDG.